Philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 7 mars 1985.
Dernier cours sur la qualité, il faut mettre un terme. Il ne reste plus beaucoup de cours, du reste, avant la semaine sainte. Alors nous ferons quelques cours de carême sur la quantité. Quelle différence y a-t-il entre la médiation de la qualité et celle de la relation? De quelle manière sont-elles l'une et l'autre un ordre à la fin? Y a-t-il un lien entre la qualité propre de l'amitié et l'intention de vie? Bon. C'est vrai, on peut le dire, la qualité est médiatrice dans l'ordre de la finalité. Pas la relation. Elle est médiatrice dans l'ordre de la qualité. Vous voyez, quand je parle de l'opération vitale est comme une qualité. L'entelekeia d'Aristote, qui est l'opération vitale qui nous relie à la fin. Nous sommes reliés à la fin par l'opération vitale, qui nous qualifie. Elle nous ennoblit, elle nous qualifie et elle nous relie à la fin. Donc elle joue bien ce rôle de médiation qualitative. Et c'est vrai que la qualité est médiative. Ça, c'est tout un aspect de médiation que joue la qualité. Marie, théologiquement parlant, Marie, dans sa compassion, est médiatrice. C'est très curieux. La femme est médiatrice aussi dans l'ordre de l'amour, par ses qualités, par ses dispositions. Le propre de la qualité, c'est de jouer ce rôle de médiation, dans l'ordre de la finalité. Alors, je dirais ça très nettement, c'est dans l'ordre de la finalité. La relation joue un rôle aussi de médiation, mais pas du tout de la même façon. La relation relie. Alors, tout ce qui relie peut jouer un rôle de médiation, mais j'allais dire presque horizontalement la relation, l'autre verticalement. C'est peut-être comme ça que vous comprendrez mieux. C'est un peu schématique, mais au fond, la médiation, normalement, nous élève et nous permet d'aller plus loin. C'est propre le rôle de toute médiation. Si on ne va pas plus loin, on n'a pas besoin de médiateur. Tandis que si on va aller plus loin, on a besoin d'un médiateur. Ordinairement, c'est comme cela. La médiation, c'est pour nous élever. La relation, à ce point de vue-là, joue beaucoup moins un rôle de médiateur. Parce que la relation relie horizontalement et formellement. Alors, vous allez me dire, l'amitié, c'est une relation. Attention. L'amitié est qualitative. Et elle implique une relation. À cause de la réciprocité. Mais la relation dépasse, je veux dire, la qualité de l'amitié dépasse la relation. Vous allez peut-être saisir ça, si vous voulez, d'un point de vue très, très... Enfin, l'amitié grandit dans la mesure où vous aimez l'autre pour l'autre. L'amitié risque d'être alourdi, de s'arrêter dans son développement lorsque vous aimez l'autre dans la mesure où il vous aime. Quand vous aimez l'autre dans la mesure où vous connaissez qu'il vous aime, vous ne progressez plus dans l'amitié. Et c'est l'aspect relation qui l'emporte sur la qualité. Ça, ce serait très intéressant à étudier. Parce que là, ça nous mettrait au cœur, si vous voulez, de ce que représentent qualité et relation. Et c'est vrai que dans l'amitié, il y a relation et il y a qualité. Il y a les deux. Eh bien, il y a deux types d'amitié. Il y en a plusieurs autres, hein, mais il y en a deux pour ici, si vous voulez. Il y a deux types d'amitié sur lesquels la relation l'emporte sur la qualité. Le jour où la relation l'emporte sur la qualité, l'amitié est stagnante. Je tombe dans des ornières. et je ne progresse plus. Pourquoi ? Parce que je suis plus attentif à la manière dont l'autre m'aime qu'à ce qu'il est. Si dans l'amitié j'aime l'autre pour lui-même, je le regarde tel qu'il est. Bon, ça peut me faire souffrir la manière dont il m'aime, ça c'est très vrai, ça peut me faire souffrir, mais c'est pas ça que je regarde en premier lieu. Ce que je regarde en premier lieu, c'est l'ami. Et la grande purification de l'amitié, c'est d'être purement qualitative. Alors que si je suis plus attentif à l'aspect relation, relationnel, dans l'amitié, je suis très attentif à la manière dont l'autre m'aime. Je crois que toutes les causes de divorce proviennent de ça. Mais ce serait intéressant, une belle thèse à faire là-dessus. Je crois que ce serait très intéressant parce que ça fait comprendre, vous voyez, ces deux aspects, relation et qualité, à l'intérieur même de l'amour d'amitié. Et quand dans l'amour d'amitié, la relation l'emporte sur la qualité, alors à ce moment-là, je suis attentif à la manière dont l'autre m'aime en premier lieu. Alors, s'il m'aime moins, je suis triste, je ne l'aime plus. Par le fait même, l'autre voit que je suis triste et que je l'aime moins, il m'aime moins, et alors on dégringole. C'est la grosse dégringolade. Et comme ça, on est à deux, ça va plus vite. Tandis qu'au contraire, si je suis plus attentif à l'amour de l'ami, plus attentif à l'ami qu'à l'amour qu'il a pour moi, je cherche toujours à l'aimer pour lui-même. Et je le découvre de plus en plus dans ce qu'il a d'unique, qu'il est mon bien. Alors, à ce moment-là, je l'aime toujours plus. Et en l'aimant plus, j'aide l'autre à le découvrir. J'aide l'autre, je le détermine pas, mais je l'aide. Et donc il y a une montée qui se fait ensemble. Encordée. On monte ensemble. Tandis que de l'autre côté, je ne sais pas, la dégringolade ensemble, je ne sais pas si c'est l'anticordée, n'est-ce pas ? Alors on dégringole ensemble. Et réfléchissez là-dessus. Je crois que c'est ça qu'il faut répondre à cette question. Et ça fait bien comprendre la différence de la médiation du côté de la relation. J'allais presque dire, vous voyez, l'amitié permet ou réalise la médiation, la relation constate la médiation. Elle ne fait pas la médiation, c'est pas la relation qui fait la médiation, c'est l'amitié qui fait la médiation. Tandis que la relation constate, c'est un constat. C'est un résultat, c'est plus formel. Alors, y a-t-il un lien entre la qualité propre de l'amitié et l'intention de vie ? Oui, il y a un lien. L'intention de vie est fondamentale par rapport à la qualité propre de l'amitié, puisque l'amitié implique cette réciprocité, tandis que l'intention de vie ne la présuppose pas, et donc donne à l'intention... C'est pour ça que l'intention de vie est quelque chose de fondamental par rapport à l'amitié. Et l'amitié, nous, cette intention de vie qu'on vit à deux, et non plus seul. Nous essayons de saisir les différentes sortes de qualités en métaphysique, où celles-ci impliquent respect, détermination, finalité. Mais toute forme déterminée, parce qu'elle est déterminée, n'implique-t-elle pas le point de vue de la fin ? Non. Alors ça, c'est une question très délicate. Mais le grec, hein, pour vous amuser. Distinguons bien limite, détermination, fin. Parce que pratiquement, ces distinctions-là, jusqu'où dans une philosophie comme celle de Leibniz sont-elles respectées? Et Leibniz a joué un rôle énorme en scolastique, il ne faut pas l'oublier. Et donc, jusqu'où ces distinctions-là en scolastique sont-elles respectées? Je n'en sais rien. Je crois qu'elles ne le sont plus. Je prends exprès les trois. Vous allez tout de suite saisir. La limite provient de la cause matérielle. Celui qui reçoit, donc de la potentialité, le propre de la potentialité, c'est de limiter. Ad modum recipientis. Hein, pas oublier cette chose si importante. Quand quelqu'un vous rapporte, telle personne a dit ça. Faites grande attention au mode du récipient. Parce que, ordinairement, le mode du récipient accapare la parole qu'on a dite et la transforme selon les déterminations du sujet. Et le subjectivisme. Le subjectivisme, il a sa racine dans la potentialité. Vous limitez, vous accaparez en limitant la forme reçue. Donc la limite provient de la cause matérielle. La détermination, c'est la cause formelle. Si vous ne distinguez plus matière et forme, vous ne distinguez plus limite et détermination. Je vais vous donner des exemples après, parce que vous verrez que c'est quelque chose auquel on retrouve tout le temps, ces choses-là. Et c'est tellement important de pouvoir faire le discernement. La détermination, c'est la cause formelle, c'est ce qui spécifie la connaissance. La limite ne spécifie pas. La limite, c'est du côté du sujet, c'est pas du côté de celui qui connaît. Et la fin, c'est la cause finale. Alors, qu'il y ait des liens entre les trois, c'est bien évident, mais je ne peux pas dire que toute détermination est liée à la fin. Non. Il y a des déterminations qui ne sont pas liées à la fin. Il y a des déterminations qui peuvent s'absolutiser, devenir quelque chose d'absolu. Et là, on est en face de la cause exemplaire. La cause exemplaire, c'est la réduplication sur la forme dans l'intelligence, qui fait que cette forme va s'imposer comme un absolu. Et je serai en face de la cause exemplaire. Et ça ne finalise pas. C'est l'eidos qui devient un absolu. Et ça devient une cause exemplaire. Vous voyez, c'est très curieux, hein, parce que chaque fois, c'est un accaparement. Accaparer la forme reçue à cause de la limite. La limite risque d'accaparer la détermination. Et la fin risque d'être accaparée par la détermination, par la forme. C'est la cause exemplaire. La cause exemplaire n'est pas mauvaise en soi, mais elle peut devenir rivale de la fin. Et quand la cause exemplaire devient rivale de la fin, c'est vraiment l'accaparement que fait la forme par rapport à la fin. Je peux accaparer la fin. Chaque fois qu'on veut posséder une fin, quand vous dites « je possède la vérité », c'est un accaparement, parce que vous ne la possédez pas, la vérité, vous la cherchez. Alors, elle vous détermine. Donc, d'une certaine manière, vous la possédez, c'est sûr, vous la possédez. Mais plus vous la possédez, plus vous la cherchez. Et donc, elle joue toujours ce rôle de dépassement. Tandis que quand vous l'accaparez, alors à ce moment-là, vraiment, vous la possédez. Et ça devient une cause exemplaire. et devenir une cause exemplaire, c'est terrible, parce que c'est supprimer le point de vue de la finalité. La fin, vous ne pouvez pas l'accaparer. La fin, elle transcende. Elle est toujours au-delà. Mais vous pouvez accaparer la forme. Vous pouvez accaparer la forme. Vous la possédez. Autrement dit, la forme peut devenir un avoir et jamais la fin. Alors, dans la mesure où la vérité est une fin, vous ne la possédez pas, vous la cherchez. Dans la mesure où la vérité est une fin, c'est-à-dire dans la mesure où vous comprenez que la vérité finalise votre vie intellectuelle, quel est le bien de votre intelligence, à ce moment-là, vous la cherchez tout le temps. Et plus vous l'avez découvert, plus vous la cherchez. Parce que vous savez très bien que la réalité dépasse toujours la connaissance que vous avez de cette réalité. Oui, alors c'est ce qui maintient le flambeau allumé, ça. Ce qui maintient la recherche constante. Mais dans le très bon sens, c'est que je recherche cette finalité, cette fin qui me dépasse, qui est au-delà de ce que je fais. Vous voyez, il y a trois choses donc toujours à bien préciser. La limite, la détermination, la fin. Et vous avez les diverses causalités qui correspondent. Causalité matérielle, causalité formelle, causalité finale. La causalité efficiente n'apparaît pas, parce que là, je suis une étude des trois. N'est-ce pas ? La causalité efficiente, c'est celle qui est la source, d'où cette détermination du droit, d'où je pourrais acquérir la fin. Ce sera la causalité efficiente est ici, dans cette recherche de la forme, dans cette recherche de la forme. Alors, conséquence de cette confusion entre limite et forme, qui arrive constamment, c'est qu'on n'aime pas les points de vue de la détermination. Au point de vue, par exemple, au point de vue théologique. Pourquoi certains ont une horreur de ce que représente le dogme ? Ça existe. Pourquoi certains ont une horreur que l'Église puisse déterminer un dogme ? Pour eux, c'est une effrayant. Alors que s'ils avaient un amour de la vérité, il serait très heureux qu'il y ait une détermination nouvelle en vue de la vérité. Une détermination qui leur montre que c'est le bon chemin. Mais quand vous êtes perdu en forêt, ça arrive. Perdu la nuit en forêt, on tourne autour du lieu où on doit aller, on ne voit rien du tout. Tout d'un coup, vous voyez une petite indication. Une petite flèche avec un nom inscrit dessus. On est sauvé. On peut faire le point. Si on a une carte. On peut faire le point. On peut essayer de saisir. On a une détermination en vue de la fin. Vous n'êtes pas comme un imbécile à ce moment-là. Ah non, moi je cherche pour chercher. Surtout pas d'indication. Ah non, ne regardez pas ça. Cherchons, cherchons, cherchons. C'est très connu dans l'ordre pratique. Hein. On n'est pas des imbéciles, et dans le spéculatif, on l'est. C'est très curieux, mais ça me semble des choses extraordinaires. Ça. Dans l'ordre spéculatif, s'il y a une indication, détermination, et que l'Église, avec la grâce du Saint-Esprit, vous donne une détermination, Marie est immaculée, mais c'est merveilleux. Marie est montée dans le ciel, c'est merveilleux. Ou dans la forêt, une petite indication. Bon, on est sauvé, on fait la pointe, on veut très bien. Et la carte ici, c'est toute la révélation. Alors par rapport aux autres mystères, je pointe. Donc si on recherche vraiment la fin, on détermine. On aime la détermination. Si on aime vraiment la fin, c'est-à-dire si vraiment on aime la vérité, notre finalité. Pourquoi avons-nous cette espèce d'horreur de la détermination ? Chez certains, pourquoi ? Ça existe. Hein. Parce qu'ils ont confondu détermination et limitation. Elle dit, on est plus libre. Vous voyez, la liberté passe devant tout. On est plus libre s'il n'y a pas de détermination. Tandis que dès que vous avez une détermination, vous tombez dans une limite, dans une ornière. Mais non, ce n'est pas une ornière, une détermination. L'ornière, c'est la manière dont vous recevez cette détermination. Et donc l'ornière, c'est vous. Ce n'est pas la proclamation d'une vérité, ce n'est pas la proclamation d'une détermination. L'ornière, c'est vous. C'est votre manière d'accaparer cette détermination. Alors vous en faites une ornière, une limite. C'est très important, petit examen de conscience pour nous. Hein. La vérité vous libérera. Donc elle vous libère. Elle vous met au-delà de vos limites. Parce que c'est ça être libéré. C'est être au-delà de ses limites. C'est la seule façon de se libérer. Dépasser ses limites. Toute la théologie de la libération, si vous êtes attentif, hein, ça vient de là. Conséquente de Leibniz. C'est curieux. Hein. Parce que dans Leibniz, confusion, dans l'idéalisme, c'est normal, entre limite et détermination. D'où les conséquences font que nécessairement, si vous cherchez le point de vue de la liberté et non plus le point de vue de la finalité, vous aurez horreur de toute détermination parce que vous considérez que toute détermination, c'est une limite. Ça, il faut y réfléchir et essayer de comprendre. Parce que c'est important dans notre vie. Et c'est par là on voit très bien que toutes ces précisions des diverses causalités doivent nous aider à vivre plus profondément ce qui est le pain quotidien. Alors, retournons au mystère de la qualité, à la médiation de la qualité. La transfiguration, c'est tout à fait qualitatif. Tout à fait qualitatif. C'est la lumière. Ça qui fait entrer dedans. C'est la lumière. Alors, la lumière, c'est la qualité sensible par excellence. La lumière est à la qualité sensible ce que la sagesse est à la qualité en général. Ça, c'est une analogie. Vous savez bien, je vous l'ai déjà dit, je crois, quand saint Thomas et Théard sont d'accord avec Aristote, il y a des chances qu'on est en face de quelque chose qui est assez fondamental. Or, Théard, saint Thomas, Aristote disent que la lumière, c'est ce qui fait l'unité de l'univers. C'est très beau du reste. C'est la qualité des qualités dans l'ordre sensible. Et c'est ça qui est l'unité de tout le monde sensible. Tout l'univers sensible, j'allais dire, dépend de la qualité, dépend de la lumière. Mais alors, c'est très très fort ça, la lumière. Parce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est que la lumière, hein? Qu'est-ce que c'est que la lumière? Bien, c'est une qualité sensible, en premier lieu. La lumière va transposer ensuite dans le domaine spirituel, vous direz que l'intelligence est lumière. Puis ensuite en Dieu, vous direz que Dieu est lumière. Est-ce que vous êtes en face d'une analogie métaphorique ou d'une analogie propre? Je dis ça, c'est pour que vous compreniez, hein, dans l'ordre des qualités. Lorsque vous êtes en face de la sagesse, prenez tout simplement les mots. Sagesse. L'habitude de sagesse. Et puis, lumière. Nous avons dit que la sagesse, c'est la qualité des qualités. C'est la qualité spirituelle par excellence. Donc, c'est la qualité spirituelle par excellence, la sagesse. La lumière, c'est la qualité sensible. C'est toujours intéressant de chercher le premier. Nous sommes dans l'ordre de la qualité. Dans l'ordre de la qualité, on cherche toujours ce qui est le premier. Maximétal. Le premier. Maxime étalé, c'est toujours une recherche qualitative. On recherche qui est premier? Il y a le maxime étalé. C'est intéressant comme expression. Hein. Je ne sais pas comment on devrait traduire ça aujourd'hui. Le maxime étalé, ce qui est au sommet, ce qui est le premier dans l'ordre qualitatif, puisque la qualité implique du plus et du moins, je veux toujours aller vers le plus. Et aller toujours vers le plus, c'est le maxime étalé. C'est pour ça que c'est proprement qualitatif la recherche du maxime étalé. On cherche ce qu'il y a de plus, ce qui permet de mesurer tous les autres. Le maxime étalé, il mesure. Il mesure tous les autres. Et donc, il permet d'ordonner. Une fois que je saisis le maxime étalé, je saisis la mesure et je peux ordonner tout le reste. Et donc, j'ordonne tout l'ordre qualitatif. La qualité implique une hiérarchie. Toujours. C'est une hiérarchie dans le sens qu'il y a du plus et du moins. C'est le propre de la qualité. Donc, quelque chose qui est premier. Alors, la sagesse, c'est le maxime étalé dans l'ordre des qualités. La lumière, c'est ce qu'il y a de premier dans l'ordre des qualités sensibles. Les qualités sensibles, alors là, je comprends ce que c'est que les qualités sensibles. Les qualités sensibles, c'est ce que je connais immédiatement. Il y a la première chose que vous connaissez, c'est la lumière. Réfléchissez bien. La première fois que vous avez vu, dans votre toute petite enfance, c'est la lumière. Et ça nous est montré très beau, vous savez, dans l'évangile où Jésus rend la vue. Comment d'abord pour avoir la lumière. Et quand vous voyez des aveugles qui ont très peu, il y en a qui ont le sens encore, vous voyez la différence entre le jour et la nuit. Pas étonnant que Dieu a divisé le jour et la nuit. Cette division du jour et la nuit. Pourquoi le jour et la nuit? C'est quand même très important. Et quand vous êtes dans des endroits où il n'y a que le jour, un tout petit frange de lumière quand vous êtes dans, aux extrémités. Le jour et la nuit. Alors, le négatif, c'est la lumière. Il y a la lumière et la nuit. Les qualités sensibles. Tout le domaine des qualités sensibles. Les qualités sensibles, c'est ce que je saisis immédiatement. C'est ce qui donne à ma sensation son point ultime. Ce qui donne à ma sensation sa sensibilité. Ce par quoi le sensible est sensible. La sensibilité dans ce qu'elle est le plus fort. Eh bien, je crois que c'est la lumière. C'est pas la chaleur. Oui, pour moi, c'est la chaleur. C'est pas la lumière, c'est la chaleur. Vous dire ce que vous voulez, pour moi, c'est la chaleur. Eh bien, non, c'est pas la chaleur. Pourquoi? Parce que vous pouvez dire, mais c'est... C'est vrai que la chaleur est, d'une certaine manière aussi, une qualité sensible. Pourquoi? La chaleur, c'est le toucher. La lumière, c'est la vision. Eh bien, la vision, c'est la sensation par excellence. C'est pas le toucher. Le toucher, c'est la sensation fondamentale. Et donc, la chaleur, c'est quelque chose de fondamental dans l'ordre des qualités. C'est quelque chose de fondamental. Celui qui n'est ni chaud ni froid, celui qui est tiède, je le vomirai. Vous voyez, Dieu aime bien les qualités. La tiédeur, ça fait vomir, que voulez-vous. Il y a quelque chose de très particulier. La chaleur, c'est une qualité, mais c'est la qualité du toucher. Et le toucher, c'est le sens du vivant. Et alors la chaleur, c'est pour le vivant. La lumière, c'est pour l'intelligence et la connaissance. Et donc, des êtres qui sont plus impressionnés par la chaleur que par la lumière, ce sont des êtres qui sont plus vivants qu'intelligents. C'est pas très loin, ces choses-là. On pourrait faire des petits tests comme ça, par le point de vue des qualités. Et il y a quelque chose qui correspond à ça. Parce que c'est la qualité du vivant, la chaleur. Alors prenez tous les sens, tous les sens dans les sensibles propres ont un maxime étalé. Mais à l'intérieur des sensations, il y a un ordre et la vision est première. Je crois que c'est ce que les Grecs ont très bien senti. Ça. Pas seulement que les Grecs, hein, parce qu'on oppose ordinairement les Sémites et les Grecs, en disant les Grecs, c'est des gens de la vision, et les Sémites, c'est des gens de l'ouïe. C'est très faux. Pour tous les hommes, la vision, c'est la vision. Et pour les Sémites aussi. Mais les Sémites, ils ont reçu un don que les Grecs n'avaient pas reçu. Ils ont reçu la foi. Ah, au point de vue de la foi, il y a quelque chose de très particulier. La foi nous fait écouter. Alors pour Louis, quelle est Maxime Étalée? Posez-vous la question. Il faut se poser la question pour tous les sens. Hein. C'est très intéressant parce que ça nous aide à comprendre les qualités sensibles. Et il faut découvrir ce qu'il y a de premier dans chacun des sens. Et ensuite, comprendre parmi les premiers, le premier des premiers. Et le premier des premiers, c'est la lumière. Le son, la voix. Parmi tous les sons, c'est la voix humaine. Alors la voix humaine a des tonalités différentes, il y a des voix aiguës. Alors est-ce que c'est l'aigu qui est la qualité de Maxime Étalée? Ou est-ce que c'est le grave? Maxime Étalée. Hein? Et ne dites pas, ça regarde des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Pas du tout, c'est le vieil adage hein, de la, pour que les gens ne cherchent pas ça. Alors on ne cherche pas. On cherche au contraire, parce qu'il y a du plus et du moins. Mais ce n'est pas toujours commode, hein, c'est pas toujours commode. C'est comme pour le goût. Il y a des gens qui aiment les bonbons acides. Ah, Maxime Étalée, acidité. Et d'autres, sucre. Maxime Étalée. Il faut chercher, c'est très intéressant. Qualité sensible. Hein. Il faut voir dans les qualités sensibles, puisque c'est directement ce qui nous est donné dans les sens, et les sensibles propres. Hein. C'est les sensibles propres qui sont les qualités par excellence. Les sensibles communs sont des qualités secondes. L'aspect quantitatif est beaucoup plus grand. Tandis que dans les sensibles propres, là, on est en face de quelque chose d'immédiat. Et c'est ça qui est terrible à voir, c'est que la science moderne laisse les sensibles communs depuis Descartes. Avant Descartes, déjà. Descartes a voulu canoniser la science en faisant ça. Donc, il y a les sensibles propres qui sont très importants à voir. Et puis, il y a les passions. Les passions, c'est les sensibles propres du côté affectif. Les sensibles propres sont du côté de la connaissance, et c'est pour ça qu'ils passent avant. La connaissance, vous voyez, nous donne, nous explicite la qualité de l'essai. C'est vrai, là, on va toucher un problème très important. Donc, il y a les sensibles propres. Ici, nous avons pas les sensibles propres. Il y a les passions. Les passions, c'est du côté affectif. C'est du côté affectif, c'est du côté du bien. Or, nous avons dit que les qualités étaient plus du côté du bien que la détermination. Les sensations, c'est du côté de la détermination. La connaissance est d'abord du côté de l'évidence, de la forme. Donc, au fond, au-delà des sensibles propres, il y a les passions. Et au point de vue qualité, les passions sont plus qualitatives que les connaissances. Problème de la détermination, problème de la finalité. Du côté de la détermination, les sensibles propres passent avant. Donc du côté de la manifestation, les sensibles propres sont plus qualitatifs que les passions. Mais du côté qualité propre, signification ultime de la qualité, les passions sont avant. Or, parmi les passions, quelle est la passion dominante, Maxime Étalée? Il y a deux passions extrêmes. Je fais appel ici aux 11 passions de l'analyse de Saint-Amand. C'est une des manières d'entrer dans la pensée de Saint-Amand. C'est d'entrer dans les passions de Saint-Amand. C'est toujours sympathique, n'est-ce pas? Parce qu'on dit Saint-Amand, c'est un intellectuel pur. Pas du tout, c'est un être passionné. Saint-Amand est le seul, hein, Ça, il fait quelque chose de très particulier, là.
D'avoir analysé les patients, d'avoir donné 11 patients.
Quand j'ai fait ce traité des patients en phase des psychanalystes, des freudiens psychanalystes à Paris, je me souviens, ils étaient très étonnés que quelqu'un comme Saint-Thomas ait analysé 11 patients. Ça leur a appris quelque chose. Parce que pour eux, c'est le concupiscible et l'irascible, et puis c'est toujours un peu les deux. C'est intéressant de voir qu'il y a 11 patients. Alors, les 11 patients, c'est très beau, c'est les 11. Alors, il y a du plus et du moins. Quelle est la passion dominante?
La passion dominante, c'est l'amour.
Et donc, de ce point de vue-là, je peux dire que les 11 passions sont les 10 modalités de l'amour. Vous voyez les prédicaments de l'amour, les 10 passions. J'ai dit 10 parce que si j'enlève l'amour, l'amour est au-delà, parce que l'amour est transpassion. Ça fait bien. Transpassion, donc elle est au-delà de toutes les passions, parce qu'elle est commande toutes les passions. Et alors vous avez 10 modalités des passions. Comme vous avez les 10 prédicaments, vous avez 10 modalités des passions. Et on n'a rien fait de mieux depuis. C'est donc, vous avez les 10 passions, les 10 modalités de la passion, qui vous donnent, au point de vue qualitatif, les grandes qualités des passions. C'est très très beau ça. La qualité affective de quelqu'un se prend du côté des passions. Alors, il y a l'amour. Et quelle est l'autre passion?
C'est la colère noire.
Ah, vous avez la haine noire et la colère noire, ou bien la colère grise. Vous avez la colère.
Vous avez l'amour et la colère.
Puis la haine. Point de vue positif, point de vue négatif. Et la colère, elle est entre les deux. Et donc, vous avez les trois, là. C'est très curieux. Et c'est normal, hein. C'est normal qu'au niveau sensible, vous restez devant les trois. Un grand amour engendre de grandes haines. Il y a un grand amour et une grande haine engendre de grandes colères. C'est sûr, ça. Pour être dans une grande colère, il faut un grand amour et une grande haine. Simultanément. Et c'est ça qui déchire le cœur. Alors vous êtes en face d'une grande colère. Analysez vos colères. Vous ne vous mettez jamais en colère quand vous êtes en face d'un être indifférent. Vous passez sans tenir compte de rien du tout. Vous êtes complètement indifférent. Tandis que quand vous êtes en face de quelqu'un que vous aimez de façon souterraine, quand vous l'aimez, manifestement, vous ne vous mettez pas en colère en face de lui. L'amour dépasse tout. Mais quand de fait, vous l'aimez de façon souterraine et que subitement la haine a pris place, alors il y a des colères. Et je crois que la colère est toujours la synthèse des deux. Il y a diverses colères, hein. Il y a diverses synthèses. Il y a des colères où l'amour domine, il y a des colères où la haine domine. Les colères qui veulent détruire, parce que les colères veulent toujours détruire. Eh bien, quand la colère va jusqu'au bout de la destruction, c'est que la haine a dominé. Tandis qu'il y a des colères qui veulent corriger. Je t'aime bien et c'est pour ça que je te donne une fessée. Je t'aime bien. Alors, vous voyez, la colère, parce que si vous vous donnez la fessée sans être en colère, c'est pas fort. C'est pas efficace. Hein. Tandis que si vous êtes un peu en colère, c'est efficace. Et alors, l'amour dépasse. Alors, la colère devient éducative. Il y a des colères qui sont éducatives, il y a des colères destructives. Et ça dépend des deux. Alors ça, c'est vraiment le point de vue affectif. C'est la qualité dominante. Enfin, alors, il y a la forme expressive, la figura. Alors là, il y aurait des quantités de choses à dire. Parce que la figura, c'est manifesté pleinement dans l'art, hein. Alors la figura, vous voyez, la figura peut se matérialiser dans la figure. Et la figura peut être vraiment elle-même dans l'harmonie. La figura, c'est une harmonie. C'est l'harmonie de vous voyez, la vraie figura, la vraie, l'expression. C'est l'expression, la figura. Quand Croce dit que toute œuvre d'art est expressive et que c'est l'expression qu'on cherche. Alors, l'expression, c'est l'harmonie. C'est la qualité de la qualité. C'est un ensemble de qualités qui s'unissent, qui se dominent. Alors, ce serait très difficile de se poser la question du maxime étalé dans l'ordre de la figura. Ce serait très intéressant de juger. Difficile, très difficile. Il doit pouvoir y avoir, parce que toujours, les qualités, c'est du maxime étalé. Il y a le plus et le moins. Alors, quelle est l'expression dans l'ordre? L'expression, la qualité de la qualité, l'harmonie. C'est pour ça que certains ont appelé l'âme une harmonie. On montrait que c'était l'âme qui était la figure intérieure, l'harmonie intérieure. Ils ont dit la santé, l'équilibre des humeurs, l'harmonie des humeurs. Alors, c'est vrai que la santé, ils ont dit que la beauté est aussi une harmonie. Alors vous avez ces différents aspects qui sont tous à essayer d'exprimer quelque chose d'ordre synthétique. C'est une qualité synthétique, la figura, l'expression. Et je crois, c'est l'harmonie. Alors on aurait l'harmonie spirituelle, intérieure, on aurait l'harmonie sensible, on aurait l'harmonie affective, et ainsi de suite. J'aime mieux ça qu'équilibre. Mais ça, c'est la déchéance de l'harmonie. Et la déchéance de l'harmonie, c'est l'équilibre. Alors que l'harmonie est qualitative, l'équilibre est quantitatif. Quand quelqu'un cherche, oh, vous n'êtes pas assez équilibré, alors vous demandez qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? Tandis que vous n'êtes pas assez en harmonie avec vous-même. Ça veut dire quelque chose. Vous n'êtes pas assez en harmonie avec tout le contexte dans lequel vous êtes. Ça veut dire quelque chose. L'harmonie est qualitative. Et l'harmonie relève du vivant, n'est-ce pas ? Le rythme et l'harmonie. Quelque chose de très spécial. Eh bien ça, c'est la forme expressive. Alors on doit pouvoir se poser la question. Et c'est là où je me demande si on ne découvrirait pas de ce côté-là ce qu'est la beauté. Est-ce que la beauté n'est pas maxime étalée dans l'ordre de l'harmonie, dans l'ordre du rythme ? Cette expression particulière dans la recherche pas de l'art abstrait, c'est l'harmonie. Vous voyez, on a la figura avait pris une place telle, la figura peut-être l'analogue de la limite. Alors on veut détruire la figura pour redécouvrir une harmonie plus parfaite de couleurs où on ne regarde que l'harmonie. Et uniquement, parce que la figura avait pris trop de place. Alors on comprend cette espèce de réaction. C'est ça qui serait intéressant à regarder. Ce que représente justement le point de vue de la beauté, la beauté est proportion et harmonie, dans tous les domaines. On peut se poser la question après la diversité. Donc vous voyez bien, si je prends cette question de la diversité des qualités, nous avons vu l'exis, l'habitus, nous avons vu la disposition, nous avons vu le point de vue des qualités sensibles et des passions, des pouvoirs, qualités sensibles, prenez ça tout simplement. Alors, prenez l'habitus de cette partie. Tous les autres habitus, les vertus, tout ce qui est acquis. On acquiert ça. On acquiert des qualités. On acquiert. Puis il y a les dispositions.
dispositions, on les acquiert aussi, mais il y a des dispositions naturelles. Plus vous avez à côté des dispositions, je pourrais dire les pouvoirs, les puissants, les pouvoirs. Nos pouvoirs, nos puissances, nos facultés. Nos puissances que nous donnons, nos puissances naturelles que nous donnons. L'intelligence, la volonté. Plus nous avons encore comme qualité les qualités sensibles, et les passions. Enfin, en dernier lieu, l'harmonie, l'expression. Quelle est la propriété de la qualité? C'est le point de vue du plus et du moins. Et la similitude. Pas l'unité, mais la similitude, la proportion. Une similitude dans la proportion.
Jésus, le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.